mettre en place. Et je crois que c'est très important parce que je me rends compte de plus en plus, plus nous avançons, plus je réalise le besoin, pas pour moi-même, mais le besoin de beaucoup d'entre vous, d'avoir la compréhension de ce qu'est pas Israël uniquement, mais également du plan de Dieu pour Israël, les nations, et également ce qui est présent dans les nations, l'Ecclésia. Et il est clair qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui se développe depuis plusieurs années d'ailleurs, et qui nous touche et sensibilise tous les uns les autres. C'est lorsque nous parlons des racines d'Israël, nous ne parlons pas seulement de racines juives, nous parlons des racines d'un peuple qui a été appelé, d'un peuple sur qui repose le futur du monde, un peuple qui a reçu quelque chose de très particulier, qui peut être réinterprété, mais ça vient de beaucoup d'autres domaines sur lesquels peut-être un jour on entrera. Et il est clair que nous avons besoin de nous orienter dans la compréhension pour avoir des bases, des fondements. Et qu'il nous faut savoir aussi quelle est notre place dans le mouvement messianique. Et il est évident, et je crois que on doit le formuler ainsi, que lorsque l'on entre dans cette vision, on entre dans quelque chose qui peut nous dépasser, à tous les niveaux, tant sur le plan de la pratique, du changement de calendrier, les fêtes, le Shabbat, la pratique également en ce qui concerne la prière, la compréhension de la vie avec le Mashiach. Et c'est certain que ça peut créer un certain nombre de petits conflits internes. Mais une chose est certaine, c'est que la pensée d'Israël est très claire. C'est-à-dire que depuis des millénaires, Israël prie Dieu. Ce n'est pas comme les païens qui n'ont pas toujours prié le Dieu vivant. Israël a toujours, depuis des millénaires, prier le Dieu vivant. Il a une connaissance de Dieu que d'autres peuples n'ont pas. Et c'est important de l'établir. Deuxièmement, c'est d'avoir la compréhension que Israël, dans le plan de Dieu, elle nous amène à savoir ce qu'il faut faire, pratiquer pour être agréable à l'Éternel. Et en même temps, ce que l'Éternel a sanctifié, ce qui lui convient, ce qui est son reflet, son miroir en quelque sorte, est dans le peuple d'Israël. Pas dans la nature de l'homme, mais dans le peuple qui a reçu la révélation du futur. Et ceci veut dire, bien entendu, qu'il y a une règle chez les rabbanim, donc chez les rabbins, il y a une règle absolue dans la Torah, c'est dégager, sortir de toute forme idolâtre, quelle qu'elle soit. Et la forme d'idolâtre, c'est tout simplement quelque chose qui, à un moment donné, mélange un ensemble de choses et essaye d'en faire sortir quelque chose, une pratique. Et c'est ce qu'on appelle, dans le judaïsme, dans l'hébreu, le terme est tout à fait approprié, c'est ce qu'on appelle rendre impur. C'est quand quelque chose, comme un feu étranger, quelque chose d'étranger qui vient détourner la parole sainte et pure des commandements de l'Éternel. Et c'est pareil dans la pratique cultuelle, lorsque on commence à être mélangé à toutes sortes de choses, à toutes sortes de pratiques, finalement, vous êtes dans une tour de Babel. Et la tour de Babel, c'est qu'elle n'est plus dans la bonne construction, elle n'est plus dans la bonne dimension du plan de Dieu. Et elle amène, malheureusement, à faire en sorte que et les familles, et les enfants, et les adultes ne savent plus ce qu'il faut pratiquer. À force d'aller à droite et à gauche, on a une pratique d'un côté, on essaye d'avoir une autre pratique de l'autre, et on n'arrive pas à être concret. Donc à un moment donné, il y a des choix. Il y a des choix qui sont à faire si on veut véritablement rentrer marcher dans le plan de Dieu, pas simplement avoir une sentimentalité des commandements de l'Éternel ou des pratiques des racines juives ou une connaissance superficielle des racines juives de l'Ecclésia, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, ça va dans les racines d'Israël. La racine de l'Ecclésia, c'est le judaïsme. Il ne faut pas se leurrer. C'est le judaïsme de Yeshua, on est d'accord, mais le judaïsme de Yeshua, c'est le judaïsme d'Israël. Point. Et si on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. La Torah, elle est d'accord. Et elle nous dit un certain nombre de choses. Alors pourquoi j'ai introduit comme ça? Parce que tout simplement, je crois qu'on veut aller plus loin dans cette connaissance d'Israël, mais aussi de sa pensée. Et la paracha de tout à l'heure a été une excellente introduction pour moi. Elle a été quelque chose bien conçu, qui m'a donné le bon terreau. Parce que voilà, la paracha Bo. Et on restera un temps, avant qu'on reprenne certaines autres études, on restera un temps dans l'enseignement de la paracha, parce qu'elle parcourt réellement cette révélation de Dieu. Elle nous amène à la connaissance de Dieu. Pas simplement un Dieu qui libère, mais la connaître le Dieu de la délivrance. Et ça, c'est un peu autre chose. Donc, c'est vrai que cette paracha Bo est une paracha qui nous amène à comprendre qu'est-ce qui précède une délivrance ? Qu'est-ce qui précède un futur ? Qu'est-ce qui précède une nouvelle étape ? Qu'est-ce qui va nous amener à pouvoir vivre dans quelque chose de nouveau ? Alors c'est vrai que cette paracha Bo est appelée la paracha de la délivrance. Et pourquoi est-elle appelée la paracha de la délivrance ? La paracha Bo, le nom Bo, est le terme clé de tous les chapitres qui vont précéder, incluant pratiquement Pessah. C'est pratiquement jusqu'à la veille de Pessah, dans la nuit même de Pessah. Donc la paracha Bo n'est pas une paracha qui a été mise là par hasard, alors que nous ne sommes pas dans le temps de Pessah. Mais elle précède et elle prépare déjà les cœurs, les pensées à cette étape de Pessah. Et lorsque l'on parle de l'étape de Pessah, qui est la naissance, mais c'est une nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance de ceux qui étaient esclaves qui deviennent un peuple. C'est la nouvelle naissance de ceux qui étaient dans l'esclavage intérieur spirituel dans une nation, qui vont être affranchis pour servir l'Éternel, pour devenir un peuple témoin du Dieu un, Echad. Ils vont pas être délivrés simplement parce qu'il y avait de l'injustice humaine. Ils vont être délivrés pour devenir un peuple témoin. Et lorsque nous prenons dans l'hébreu originel, dans la Torah, pas dans les traductions, mais dans la Torah, et que nous prenons le Shema Israël, il y a deux lettres finales qui sont en majuscule, c'est le Aïn. Et Aïn, on pourrait le développer énormément, mais il veut dire ce qui est l'œil, ce qui est la vue, ce qui voit au loin, ce qui voit devant soi. Seul l'Éternel peut mettre un Aïn, une compréhension du futur. Seul Dieu peut nous révéler le futur. Personne n'a la connaissance de ce qui est à venir. Personne. Seul Dieu, en tant que maître, souverain, créateur, a cette connaissance. Alors il donne le Aïn à la fin du Shema. Et c'est pourquoi dans le Shema, on a entendre, écouter et voir. Celui qui entend, c'est celui qui voit. Et ça, son importance. Puis la dernière lettre dans le Echad, qui marque l'unité, le chiffre 1, qui démontre réellement qu'Echad, c'est 1. Dieu est 1, une unité. Et le Echad, le Dalet, il est aussi en majuscule. Et quand on prend Aïn et Dalet, ça donne témoin. Donc le peuple qui écoute, c'est le peuple qui voit, mais c'est le peuple qui peut témoigner du Dieu vivant. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons comprendre que les Hébreux quitteront l'Égypte à jamais. Et c'est clair dans cette paracha que lorsqu'ils vont quitter l'Égypte, c'est pour ne plus jamais être les esclaves de Pharaon. Et que ça va commencer, inaugurer un itinéraire nouveau. Dans ce sens-là, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est un itinéraire de liberté qui va amener à connaître, à comprendre et à vivre ce que veut dire le mot « être libre ». Non plus dans l'esclavage, mais dans la gestion de la liberté. Être libre, c'est pas simplement aller mieux sur un plan psychologique et physique, mental. C'est beaucoup plus que ça. Et l'Éternel veut nous amener à comprendre qu'il y a des points clés. Donc être libre, ça veut dire tout simplement commencer à vivre. Commencer à vivre dans un chemin qui nous affranchit de l'asservissement. Parce que le passé n'est pas loin. Quand les Hébreux vont quitter l'Égypte, le passé n'est pas loin. Et quelque part, nous ne pouvons pas même connaître en Yeshua une vraie liberté sans comprendre cet itinéraire-là, ce qui nous affranchit. Être affranchi de l'asservissement veut dire être conduit quelque part, pas au hasard. Ce n'est pas être conduit finalement où on a envie d'aller. C'est être conduit, être dirigé dans quelque chose. Il y a donc un but. Ce n'est pas « je suis libéré et je fais ce que je veux ». Je vis comme je veux, je vais où je veux, je fais quand je veux, je fais comme cela me dit, si j'en ai envie ou pas. Ce n'est pas du tout ça, la liberté. Ça, c'est la définition philosophique moderne. Mais la liberté spirituelle, c'est de nous dire « tu as quitté pour entrer ». Tu as quitté pour être dirigé dans un but, pour avoir un but, une existence qui continuera. Et ça va aller beaucoup plus loin. Parce que le but qui a été donné, ce n'est pas simplement d'en mettre plein la vue à l'Égypte, à Pharaon et à tout le peuple égyptien. Ce n'est pas de démontrer une extraordinaire grande puissance. Quel était le but de cette libération? Pas simplement le fait que l'Éternel voulait en quelque sorte réaliser les promesses qu'il avait faites à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais c'était de les amener à un endroit très précis, au niveau géographique, le Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est produit au Sinaï? Le don de la Torah. C'est là qu'il donne quoi? Il donne des dvarim, les 10 commandements. Vous comprenez que c'est un temps court. Il les libère et on aurait pu dire, les Hébreux, ils seraient partis dans tous les sens, planter des maisons partout et dire, eh bien voilà, maintenant on est des hommes libres et on fait ce qu'on veut. Il leur dit non, ils restent groupés et il les conduit avec Moshe jusqu'au mont Sinaï. Et avant cette étape, eh bien il faut comprendre pourquoi le mont Sinaï qui va marquer une des fêtes de l'Éternel fondamentale, c'est celle de Shavuot. Et la fête de Shavuot, c'est la fête également qui inaugurera un domaine dans la Nouvelle Alliance, dans le livre des Actes. C'est dans le cadre de la fête de Shavuot que se produira un phénomène. Non pas quelque chose qui sépare l'ancien du nouveau, mais au contraire qui accomplit dans une dimension beaucoup plus universelle. Et nous comprenons maintenant que pour vivre cette étape, il nous faut comprendre peut-être quelques éléments. Et la paracha d'aujourd'hui, la paracha Bo, elle a le titre paracha Bo ou Bo et le chiffre 10. On va s'arrêter sur le chiffre 10. Parce que cette paracha, quand je l'ai travaillée hier, même tard dans la nuit, mais tellement j'étais pris dedans, tellement mon cœur était dans la shérina, que je me suis dit c'est extraordinaire. Il faut que je leur partage ça. Je ne peux pas garder ça pour moi. Ça vous fait plaisir au moins, non? Ça vous fait plaisir. Mais ça me fait plaisir à moi, voilà. Alors, regardez bien. Avant cette étape, il faut qu'ils affrontent, et il y aura quelque chose qui va se produire, qui ont été mentionnés tout à l'heure, les 10 plaies. On a l'impression que 10 plaies, c'est un chiffre qui est mis comme ça dans la Bible par hasard. Comme s'il pouvait y avoir un chiffre qui était lié au hasard. et qui, finalement, ça aurait très bien pu être 9, ça aurait très bien pu être 9, ben non, c'est 10, c'est pas, voilà, il y a 10 plaies, les 10 plaies d'Égypte, puis voilà. Mais c'est pas du tout comme ça. C'est qu'en fait, ces 10 plaies sont divisées en deux. Une première partie qui était dans la paracha de la semaine dernière, Vaera, et la paracha d'aujourd'hui, dans Bo, les 3 dernières plaies d'Égypte. Et c'est ces 3 dernières plaies d'Égypte qui sont fondamentales. Alors, il est vrai que cela veut dire qu'il y a d'abord eu 7 plaies. Et dans ces 7 plaies, il n'y a pas eu de changement. Rien. Rien comme changement. Et que seulement à la fin de la 10e plaie, un changement se produira. Alors, lorsqu'on commence à comprendre que ces 3 plaies sont fondamentales, et que nous devons arriver à pouvoir orienter notre compréhension. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin, c'est que nos cœurs soient dirigés dans un but. C'est que lorsque nous voulons marcher avec le Seigneur, il nous faut savoir que c'est vers un but. Venir dans une assemblée seulement pour écouter et oublier, ce n'est pas un but. Seulement se gargariser intellectuellement, ce n'est pas un but. Essayer de trouver des réponses à des choses, ce n'est pas un but. Ce qui est un but, c'est que celui qui a cherché a trouvé. Celui qui cherche trouve, parce qu'il rentre dans quelque chose. Il entre dans du concret. Alors on va aller un petit peu plus loin. Il y a dans ce chiffre 10 quelque chose qui est relié à d'autres chiffres 10 dans la Bible, dans la Torah et dans le Tanakh. Il y a, et je l'expliquerai un peu plus, les 10 mamachot, les 10 dealers, et Dieu dit. Les 10 plaies, et il y a les 10 commandements. Nous avons 3 fois le chiffre 10 qui apparaît dans Bereshit, chapitre 1, et il y a également, dans le passage de la paracha Bo, le chiffre 10 lié aux 10 plaies, et il y aura plus tard les 10 commandements. Alors, peut-être allez-vous me dire, c'est un hasard, mais quelle est la relation entre les 3 ? Ce n'est pas un chiffre 30 à la fin, hein. C'est 10, 10, 10, à des périodes, à des époques très différentes les unes des autres. Mais elles ont leur importance. Alors, pour commencer, parce qu'on va aller progressivement dans les choses, pour commencer, les 10 mamachot sont les 10 fois du chapitre 1 de Genèse, de Bereshit, où Dieu dit. Mamachot, c'est ça. Ce n'est pas les daber. Et l'Éternel parla. Il ne faut pas confondre lorsque Dieu dit et lorsque Dieu parle. Lorsque Dieu dit, il ordonne. Lorsque Dieu parle, il fait appel à notre réflexion. Il fait appel à notre conscience. Mais lorsque Dieu dit, il impose, il ordonne, il crée, il fixe, etc. Dieu dit que la lumière soit. C'est la première. Parole. Et ensuite, tous les actes créateurs vont suivre. Et il y en aura pour toutes les dimensions de l'univers. Ensuite, il y a ce que l'on appelle les 10 actes qui sont liés à la création. On est bien d'accord. Et on peut dire, qu'est-ce que l'on appelle un acte créateur ? Parce que c'est bien de dire « Dieu a créé le ciel, la terre et tout, et le Seigneur, il fait, il est puissant. » On a des notions. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et cela veut dire tout simplement qu'à un moment donné, quand on parle d'un acte créateur dans la pensée d'Israël, et lorsque l'on parle vraiment de celui qui a dit, qui a fixé, qui a mis à la naissance l'inexistant, ce qui a amené la vie alors que le néant était présent, alors que le néant régnait, alors que tout le chaos, l'informe et le vide étaient la base. Et lui, il dit, et la chose arrive. Elle bouscule, elle transforme, elle modifie et elle crée des nouvelles lois. Et la chose qui est importante, c'est ce que Dieu dit. Et cela veut dire que quelque part quand on parle des insectes créateurs. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui insuffle la vie à tout ce qui existe. Donc la vie ne vient que de Ma'amarot. Dieu dit. Dieu dit. Et la chose existe. Ce sont les 10 paroles créatrices de Dieu, parce qu'elles nous démontrent le passage du néant à l'existence. Du néant à l'existence. Par les 10 plaies, Dieu va révéler qu'il est toujours le Dieu créateur. Ça, c'est le point commun. Et en étant toujours le Dieu créateur, maître et souverain sur tout ce qui existe. Et il va révéler vraiment, dans les 10 plaies, qu'il est au-dessus de toute catégorie de domination du monde. Car personne n'a pu, quel que soit son niveau occulte, ésotérique, son niveau spirituel, c'est de comprendre que chaque élément de la nature, de la création, a été touché dans les 10 plaies. Et qu'il n'y a que seul qui va montrer la différence entre Goshen et l'Égypte. Et on va voir que réellement toutes ces choses sont présentes. Il est toujours le Dieu créateur, parce qu'il a toujours l'autorité sur ce qui existe. Par les 10 commandements, les 10 dvarim, Dieu révèle qu'il est toujours le créateur, qu'il insuffle un souffle nouveau au niveau de la création. Et là, on peut toucher une compréhension que jamais les théologiens n'ont touchée, que je n'ai jamais pu voir chez les théologiens, à ma connaissance, dans ce que je connais, dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai étudié. Mais jamais je n'ai vu un ouvrage qui pouvait le mentionner. C'est que là, Paul nous dit qu'à un moment donné, lorsque nous appartenons au Machiav, que le Machiav doit être en nous, doit se former en nous. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit beaucoup de choses. Hein, on est d'accord. Mais il y a quand même des choses qu'il dit et qu'on utilise un petit peu comme ça, mais elles ont un sens, elles ont un rapport. Lorsqu'il dit tout simplement que les choses anciennes sont passées et que les choses sont devenues nouvelles. Et il nous faut bien faire la relation du néant à l'existence. Et il dit bien que celui qui appartient à Mashiach, il a les choses anciennes et les choses nouvelles. Et là, nous sommes en plein dans les 10 plaies de Pessah. Parce que pour devenir même une nouvelle, non pas créature, parce que ça fait bizarre, mais une nouvelle création, nous voyons bien qu'il y a un état et il va y avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle création. Et ça nous amène à démontrer la pensée fondamentale même de Paul lorsqu'il dit que la mort, le néant, le chaos a régné depuis Adama jusqu'à Shavuot. La mort a régné, la mort, la domination des ténèbres, de la mort, de l'ombre de la mort, de tout ce que vous voulez relier à ça, a régné de Adama jusqu'à Shavuot. Pessah est la libération à ce moment-là précis qui va nous conduire à la vie. La libération n'est que l'étape de ce qui précède la vraie vie. Elle n'est pas la fin en soi. Beaucoup de gens disent « je suis sauvé, ça suffit ». Non, ça ne suffit pas. Non. Et désolé de te contrarier, mais ça ne suffit pas. Parce que si tu n'es que libéré, mais que derrière, il n'y a pas plus, alors, c'est que tu n'as pas réalisé. Vous allez comprendre au fur et à mesure. La vie s'est à nouveau manifestée parce que Dieu s'est révélé, parce que Dieu a dit « Ma'amarot » à nouveau. Il a dit à Moshe, il n'a pas parlé, il a dit à Moshe « Voilà, maintenant, la nouvelle constitution dans tout l'univers. Il y aura 10 paroles, 10 dvarim, qui sont la volonté de Dieu. » Et il dit, commandement 1, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, de tout ton être. Tu l'aimeras de manière entière en toi. Et ce commandement n'avait jamais été présent avant. Il faut bien comprendre ça. Ce commandement n'a jamais existé avant. Qu'on puisse dire Abraham aimait Dieu, c'est un fait. Mais ce n'était pas un commandement. Que Yaakov aimait l'Éternel en devenant Israël, on est d'accord. Mais ce n'était pas un commandement. Et ce qui nous amène là, justement, c'est que au travers de cette révélation, eh bien, l'Éternel est en train de nous amener au Sinaï, dans un lieu où justement Dieu va révéler sa volonté. Mais par cela, nous savons que Dieu pose de nouveaux fondements. Au travers de la fête de Shavuot, c'est que Dieu dit maintenant, oui, il y a une libération, une délivrance de la mort, une possibilité, mais est-ce que ça garantit le monde futur? Et la question est là. Ce qui va garantir le monde futur, c'est l'étape de Shavuot, qui inscrit en nous les commandements de l'Éternel pour que justement nous ayons l'accès à ce qui nous a été fermé dans le Gan Eden. Et c'est ça le salut. Ce n'est pas simplement « Ouh, j'ai plus de démons, je vais mieux, alléluia, avant j'étais pas bien, maintenant je vais mieux. » C'est pas que ça. C'est une étape, et prenez-le tel que. Mais que quelque part, Shavuot sépare le monde de la mort de la vie du Olam Abba, du monde futur, et du règne de l'Éternel. Et celui qui veut rentrer dans le règne de l'Éternel est obligé de venir à Shavuot. Il n'y a pas de royauté céleste, il n'y a pas de règne divin sans passer par Shavuot. Parce que même la loi de l'esprit de vie dont parle Paul est liée à Shavuot. Elle n'est pas liée à un autre esprit. Elle n'est pas liée à une autre entité. Elle est liée à la base et au fondement. Et maintenant, on y vient, c'est que nous devons comprendre que dans la construction que l'Éternel est en train de poser, c'est que toute la création repose sur un fondement que nous avons vu dans le psaume 87. Est-ce que vous voulez qu'on le relise? Alors, dans Tehillim, moi je vous avoue, hein, c'est mon psaume préféré, 87. Il y en a qui vont élever, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Le secours, il me vient de l'Éternel. Allez, délivre-moi. » Moi, j'aime Tehillim 87. Parce qu'il dit ceci. « Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Tsion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. » Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre avec l'Éthiopie. C'est dans Tsion qu'ils sont nés. De Tsion, il est dit, tous y sont nés. Et littéralement, dans l'hébreu, toutes les nations ont pris naissance, ont existé à partir de Tsion. Et Tsion n'a pas un nom qui a été donné du temps d'Abraham. Né du temps de Noir, né d'avant, mais du temps de David. On va plus loin. Tous y sont nés, c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et tous ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi. » Donc, nous comprenons qu'il y a quelque chose qui est un fondement, le fondement du salut, le fondement de la rédemption. Et je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il démontre finalement que si la mort elle a régné, Dieu va les conduire jusqu'à la cité, jusqu'à Tsion, jusqu'à la dimension du Mashiach. Ce que l'Éternel est en train de nous faire comprendre, c'est que c'est le Mashiach qui est la pierre angulaire. C'est le Mashiach qui est la pierre de fondation de tout l'univers. Il y a l'Ancien, par le peuple d'Israël. Dans le Mashiach, elle se fonde, la rédemption, le salut, de manière même universelle, à partir du moment où on reste sur le fondement. Alors, C'est la reconstruction de la création. Dieu est en train de recréer à nouveau, même si j'aime pas le mot recréer, en français il est difficile de trouver un autre terme. Pourquoi ? Parce que même Paul va nous amener à faire cette différence pour la compréhension. Il va nous parler de l'homme animal et de l'homme spirituel. Pourquoi il va dissocier deux choses ? Simplement pour nous dire que maintenant, eh bien, on est des esprits et qu'on n'est plus humain. Vous pensez que c'est la pensée de Paul ? Non, pas du tout. Il dit qu'il y a quelque chose qui va différencier en nous. Alors, c'est une chose très importante que je ne veux pas développer maintenant parce que ça fait partie d'un autre projet. Mais c'est à partir de ces lois, à partir de ce moment-là, que les Hébreux vont pouvoir réorganiser leur vie. Mais ils vont réorganiser leur vie en fonction de la rédemption. Ils ne vont pas réorganiser leur vie en fonction d'une vie sociale. Ils ne vont pas réorganiser leur vie uniquement sur quelque chose où ils vont s'établir dans un lieu et où il n'y a pas de futur. Ils vont réorganiser leur vie en fonction de la dimension de la rédemption, donc dans la dimension du Mashiach qui va les élever. Et c'est sur ce chiffre 10 que les fondements du royaume de Dieu, qui est donc le royaume d'en haut, hein, dont la base qui fonde ce royaume, ce Malchut, dans le premier Ma'amarot que l'Éternel a donné, a dit, c'est l'élément de la lumière. Ce qui veut dire que, tout simplement, il y a une lumière qui n'est pas la lumière de l'homme, qui n'est pas dans l'univers naturel, mais qui est tout simplement divine. C'est la lumière dont Dieu est. Et pourquoi Yeshua dirait qu'il est la lumière s'il n'y a pas un rapport ? Pourquoi Yeshua dirait qu'il est la lumière du monde et que celui qui marche ne marchera pas, celui qui croit en lui et qui vit en lui, qui marche en lui, il ne marchera pas à toujours dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi croyez-vous qu'il dit cela ? Parce que tout simplement, il a envie d'être poétique. Et simplement qu'on récite des versets et qu'on dise « Ah, c'est merveilleux, ah, tu es la lumière de la vie, et puis c'est tout. » Non, ça va beaucoup plus loin. Et lorsqu'on commence à comprendre que, justement, c'est la structure première de tout ce qui donne la vie, c'est la lumière. Rien d'autre ne donne la vie que la lumière. Ce qui a fait naître tout l'univers est lié à Ma'amarot qui a donné la lumière. Et Mashiach, lorsqu'on le prend dans Yohanan 1, dans Jean 1, il nous dit bien que la parole, la lumière et la vie sont ensemble. Ils ne sont pas dissociés. Il n'y a pas d'un côté ce que Dieu a dit, d'un autre côté une autre entité qui serait la lumière, et encore une autre chose qui serait la vie. Et il dit, dans les trois, il y a un. On peut maintenant aller plus loin avec les dix plaies, parce que c'est à ce propos que la racine de ces dix plaies va nous éclairer. La racine des dix plaies d'Égypte, c'est Sfor, en hébreu. Et elle vient de Séphira, qui veut dire aussi raconter, relater un événement. Et on va prendre la base maintenant de Shemot, donc Exode, le chapitre 10. Vous allez voir après, ça va être merveilleux. Et vous allez voir les traductions comme elles trahissent, malheureusement pour nous. On va lire d'abord le verset 1. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, ça c'est la parashabo, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. On va s'arrêter là. J'ai voulu, littéralement, hein, je vous le traduis de l'hébreu, littéral, j'ai rendu pesant, lourd, le cœur de Pharaon, afin que je place, c'est littéral, hein, afin que je place en lui mes signes. Voyez la différence ? Et le terme pour signe, c'est otai. Et il va encore plus loin, otai, puisqu'il veut dire afin qu'au milieu de lui, dans toute la centralité de sa personne, de son être, mais hôtes, otaim, vont être en lui. Il endurcit le cœur de Pharaon afin que Dieu fasse éclater ses signes en lui. Et les signes, c'est la marque. La marque de Dieu, c'est la confrontation que Pharaon, dans sa dimension temporelle, va s'opposer à la dimension éternelle. Et c'est là que l'on va voir qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de choses extraordinaires. Et lorsqu'on commence à aller dans ce sens, alors quand il dit « mes signes », c'est quoi les signes? Quand il dit qu'il va placer ses signes en lui, au milieu de lui, ou même dans la traduction que nous avons de second, quand il est dit « j'ai endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater mes signes », qui va s'arrêter sur le mot « hôte » signe. Personne. On le lit comme si c'était normal. Et justement, il y a l'anomalie là. Il y a une anomalie profonde. C'est que, en fait, quand il parle des signes, et si on regarde bien, il parle des trois dernières plaies d'Égypte. Mais trois signes, les trois plaies vont être en lui, au milieu de lui. Et là, il dit, pour que tu les racontes après, que tu montres que l'Éternel est Dieu et non Pharaon, quel que soit son pouvoir, son autorité, sa puissance, son armée, son argent, sa renommée, sa réputation, le fait qu'il possède une grande partie de la terre du Proche-Orient de l'époque, quelle que soit sa dimension, il place les signes. Il y a une défiance. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est la puissance de l'infini éternel, c'est la seule vraie puissance. Voilà ce que Dieu veut dire. Il y a la puissance de la temporalité et il y a la puissance de ce qui est éternel. Et tant que nous n'avons pas compris dans notre itinéraire cette dimension de la force, de la puissance qui nous relie même à l'éternel, alors à ce moment-là, on est éjecté, on est à côté. Mais on va plus loin. Le temporel veut dire qu'il n'y a pas de futur. Ça veut dire que c'est une vue limitée, c'est un avenir limité, c'est quelque chose qui ne se continue pas, le temporel. Et c'est pourquoi la Torah insiste lourdement sur le fait de connaître le Dieu éternel de l'éternité et d'entrer dans ce qui continue même après la mort. Quand Yeshua ne dit, à, ne serait-ce que cela à ses disciples, quand il dit, Lazare est mort, mais quand bien même il est mort, il vivra. Et je le ressusciterai. En fait, il est mort, mais il n'est pas mort. Et c'est ça la différence qui est en train d'être marquée. Les sept premières plaies sont dans la paracha Vaera, comme on l'a vu. Mais maintenant, on est à la huitième plaie. Et c'est là que le texte, dans Shemot 10, parce que vous avez remarqué, on est dans le 10. On n'est pas dans le 11, on n'est pas dans le 9 et on n'est pas dans le 12. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de très important parce que c'est la plaie, comme il a été rappelé tout à l'heure, des criquets ou des sauterelles qui viennent en grande masse. D'où viennent-elles? De l'Éthiopie? D'où viennent-elles, toutes ces sauterelles? Elles ont apparu du ciel. Elles ont été dirigées par un vent de jugement. On ne va pas le développer, mais un vent de jugement qui a une orientation géographique, qui sont liées aux quatre anges de l'Apocalypse. Les quatre anges dont Yeshua parle pour les temps de la fin. Et il amène le vent du jugement sur l'Égypte, pas sur Pharaon seul, mais il est au milieu de cet endroit. Et donc, à ce moment-là, il nous faut comprendre ce qui a été dit tout à l'heure dans la paracha, qui va nous faire gagner un peu de temps. On va lire dans le chapitre 10 et les versets 16 et 17. Aussitôt Pharaon, à cette plaie-là, à ce qui ravage tout, il a eu peur. Moshe et Aaron aient dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Il est malin, lui. Oh là là. Et il dit, priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Ils vont le faire. Après. Mais regardez la signification. C'est que, en fait, il y a une profondeur à découvrir, cet itinéraire, cette dimension. C'est que Pharaon aurait pu éviter la destruction totale de toute l'Égypte et de son futur. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Parce qu'on a l'impression d'avoir un homme qui arrive à raisonner, à voir qu'il est allé peut-être un petit peu trop loin et que maintenant les choses commencent à devenir sérieuses. Quand même, les sauterelles qui bouffent tout et qui sont dans les bocaux, qui sont partout, 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 dans le lit, partout, partout, partout. Tu ne vis plus. Moi, j'ai vu en Centrafrique un nuage de sauterelles et on m'entend vous dire... Eux, ils les attrapaient, ils les mangeaient. Ils faisaient des brochettes. Puis ça, mais ça fait mal quand ça te frappe. Il ne faut pas croire que c'est les petites sauterelles qu'on a dans nos petites prairies, la française. Hein. La petite sauterelle comme ça, du bon. C'est du machin. Et puis quand ça arrive, ça c'est très... pardon ? Oui, mais c'est très rapide. Et avec la vitesse, quand elle te frappe, la joue, ça te fait des marques. Mais en même temps, ça bouffe tout. En quelques minutes, un champ est dévasté. Et tout est envahi. Et quand Pharaon voit ça, il dit, ça va être la mort. Alors, il fait quelque chose, il fait effectivement ce qu'il faut. Il demande pardon. Et comme s'il avait envie d'être dans une forme de teshuva, de reconnaissance de sa temporalité. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout cela. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit. C'est qu'il ne va pas dans la profondeur de la teshuva. Et là, je voudrais dire un certain nombre de choses. Beaucoup de gens qui se disent croyants aujourd'hui n'ont même pas fait de teshuva. Ne regrettent même pas leur passé, les mauvaises actions. Mais ils voudraient avoir quelque chose qui vienne consoler. Et je dis bien le verbe consoler, leurs mots liés à la vie. Mais pas marcher avec Dieu. Pas marcher dans la sainteté de Dieu. Ils ne veulent pas être dans Shavuot. Ils veulent simplement avoir une émotion qui guérit quelque part, qui rafistole les douleurs qui rétablissent finalement les fonctions psychologiques, affectives, etc. Et que quelque part, lorsqu'il s'agit d'entrer dans le chemin de l'obéissance, ils ne vont pas. Et ça, c'est l'esprit de Pharaon. Ça, c'est l'esprit de l'Égypte, qui ne veut pas du règne de Dieu dans son futur et dans son présent. Et il ne faut pas se leurrer le péché, le khatat, comme il a été relevé tout à l'heure. Ce qui nous fait rater le futur, ce qui nous fait rater la guérison, la délivrance, la vraie délivrance, c'est simplement ce refus-là. C'est de faire semblant. Alors on pleurniche parce qu'on souffre. On pleurniche parce que tout simplement on demande à Dieu et on espère, comme Saül, obtenir la faveur, la miséricorde de Dieu parce qu'on essaye d'apitoyer Dieu. Mais Dieu n'est pas une nature humaine. Il ne réagit qu'en fonction de ce qu'il est lui-même. Ma'amarot, c'est ma'amarot. Il a établi les lois et ces lois sont fixées, il ne les change plus. Elles ne sont pas modifiables, adaptables. Elles ne sont pas du tout dans cette catégorie-là. Et c'est pourquoi, lorsque nous faisons une fausse teshuva, lorsque nous sommes dans quelque chose de faux, et malheureusement aujourd'hui, le message, la prédication de beaucoup de gens nous amène dans l'erreur du faux, de faire croire que simplement on va prier pour toi et ça va tout te rétablir. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Je n'y peux rien. Désolé si je te déçois, désolé si ça ne te fait pas plaisir, mais ça c'est du haouet. Et tu le balayes. Parce que ce qui est vrai, c'est quand on a été au fond et qu'on saisit véritablement la grâce de Dieu. Alors là, il se passe quelque chose. Parce que cette plaie, une fois qu'elle a tout ravagé, eh bien, Pharaon, en revenant en arrière, et regardez ce qui se passe également dans les villes intérieures, c'est qu'à un moment donné, d'accord, Pharaon, il ne tient pas sa parole. Combien de croyants tiennent leur engagement jusqu'à leur mort ? l'infidélité de la parole de l'homme est présente. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Je te servirai, je marcherai, je veux abandonner, je veux ceci, je veux cela, et je veux te plaire. Et combien de temps ça dure dans ta vie? Ça, c'est Pharaon. Et il faut le savoir. Et c'est quelque chose qui vient, malheureusement, peser lourd à un moment donné. Mais quand on marche, alors à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Mais regardez après le ravage, la famine spirituelle, la famine de la parole de Dieu. Parce que même la lecture de la Bible, même la parole de Dieu n'a même pas d'effet en soi. Même le fait de pouvoir l'étudier, elle ne nous pénètre même pas, elle ne nourrit pas. Or, Yeshua disait que la Torah, le Tanakh, c'était quoi? Le pain de vie. Et même dans la tentation, il nous est dit qu'à un moment donné, dit à ses pierres qu'elles deviennent du pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, Mahamarot, de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ceci est clair. Le fait d'aller plus loin nous amène également maintenant à comprendre que derrière va venir la neuvième plaie qui sera les ténèbres. Celui qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu se plonge dans les ténèbres. Il met sa neshama, sa compréhension, son intelligence, ses sentiments, ses émotions, sa vie, l'orientation de sa vie dans les ténèbres. Mais les ténèbres là, elles étaient si épaisses, c'est même pas le descriptible, parce que cela voulait dire que ces ténèbres là, en hébreu, ils absorbaient la lumière. C'est-à-dire que toute source d'énergie était absorbée par la mort. Et beaucoup se débattent et combattent et vont se faire prier. Et il y en a qui disent, il n'y a que la délivrance. Le vrai salut, c'est que la délivrance, tu parles. Il n'y a que le fait de chasser. Et après, avoir chassé, tu fais quoi? C'est pas vrai. Il y a quelque chose à comprendre. C'est qu'une fois que nous ne sommes plus dans la nourriture de l'esprit, que nous ne sommes plus dans l'étude de la Torah, qu'elle ne dirige pas notre vie, qu'elle ne nourrit pas nos pensées, qu'elle ne nourrit pas notre homme intérieur, alors à ce moment-là, on est dans les ténèbres. Et ces ténèbres-là vont faire en sorte que tout ce qu'il y avait un peu comme lumière de compréhension, de vitalité, d'énergie pour suivre le Seigneur, pour prier et autres, est absorbé. Qu'est-ce qui reste? La déprime. Le fait d'avoir plus un instinct de survie, de survivre à la vie, et essayer de commencer. Et toute la vie est une recherche de quelque chose qui donne la vie. Et vous l'appelez comme vous voulez, les expériences des uns et des autres, c'est ça. Et aujourd'hui, plus qu'hier. Et plus on est dans ces ténèbres, et moins la lumière est visible. Et c'est ce que le texte voulait dire, c'est qu'à un moment donné, oui, le peuple de l'Égypte était dans les ténèbres. Mais Goshen était dans la lumière. Celui qui marche à la lumière, c'est ce que Yeshua dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans Rochesh, mais il marchera dans la lumière de la vie. Et il aura la lumière. Et la lumière l'éclairera. Et le message de Yeshua sur la dimension de la lumière est extraordinaire. Et c'est pourquoi il est très important de comprendre qu'il y a une distinction entre les ténèbres et la lumière en soi. Et que, quelque part, il nous faut séparer. Mais ces ténèbres sont liées à une plaie. Elles sont liées à une désobéissance, à un refus de véritable repentance. Elles sont un refus de la direction de Dieu dans nos vies. Elles sont un refus de l'obéissance du royaume de Dieu en nous. Et on peut le justifier dans la modernité par la philosophie. On peut le justifier par les espèces de prédicateurs qui sont à droite et à gauche et qui disent ceci et qui disent cela. Mais lorsque nous voulons avoir l'esprit hébreu, l'esprit de la Torah, l'esprit du peuple d'Israël qui est sorti de l'Égypte pour rentrer dans le pays de la promesse, mais d'abord aller au Sinaï, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Yeshua nous dit bien que, rien que par rapport à ces deux plaies avant Pessah, il y a une prédication que Yeshua avait. Il y a quelque chose que Yeshua fait. On fait le rapprochement avec les dix plaies, et Yeshua. Avant que Yeshua ne soit livré sur le bois de Golgotha, qu'a-t-il fait? Vous pensez qu'il a fait que du barbecue, du camping, et puis qu'il s'est assis comme certains, moi je les vois des fois ces prédicateurs assis comme sur des trônes, et qui commandent, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Jamais ça ne devrait exister. Et que quelque part, il y a le rapprochement entre ce que nous venons de voir et ce qui va se produire. C'est que la première des choses que Yeshua a faites après la Tevila, après avoir passé les 40 jours de ce qu'on appelle le monde de la tentation, quand il vient, il ne dit pas « Je suis le Messie qui vous délivre, venez à moi, je vous impose les mains, je te rallonge les jambes, ta colonne vertébrale ira mieux. » Non, il n'est pas ça. C'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Le premier thème abordé, repentez-vous. Pourquoi repentez-vous? Car le royaume de Dieu est quoi? Est proche. Et il ne dit pas, je vais tous vous guérir, moi, Mashiach, roi de l'univers, parole de Dieu, fils de Dieu, etc. Toute puissance incarnée, je viens, vous allez voir, je vais en mettre plein la vue à tous les rabbins, je vais en mettre plein la vue aux sadducéens, je vais bouleverser tout l'univers. Vous croyez qu'il a fait ça? Il vient et il dit, Teshuva, Teshuva, Teshuva. Teshuva, Israël. Teshuva, Israël. Reviens dans l'obéissance. Reviens à Mamarot. Reviens au Sinaï. Reviens à la marche concrète. Et le message de la repentance n'est pas pleurer simplement sur le petit mal qu'on fait. Parce que ce n'est pas ça. Teshuva, c'est radicalement se réorienter dans son futur. C'est une réorientation dans son présent pour le futur. Ce n'est pas simplement dire « Pardon Seigneur, excuse-moi, j'ai encore péché. » Une fois de plus, Satan a été plus fort. Il est terrible celui-là. Non, il dit « Repentez-vous. » Car le royaume, Malchut HaElohim, il va s'établir bientôt. Et pour qu'il s'établisse, il ne s'établira pas dans le royaume de Pharaon, mais il s'établira sur Tzion. Le message est clair. Reconnaissez la lumière. Yohanan 1 nous dit que justement, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, même dans les prédications, les enseignements, refusent la lumière qu'il aurait donnée. La lumière de l'enseignement, la lumière de la Torah, et ils le rejettent en argumentant qu'ils ont une autre connaissance, argumentant que leur mouvement, leur fondateur est meilleur et est celui qui a le plus compris. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que c'est absolument faux. Seul Dieu est fondateur de l'univers. Seul Dieu est créateur. Seul Dieu nous a donné la Ruach HaKodesh qui révèle. Et il n'y a pas d'autre chemin. Et tout ce qui vient des hommes est très bizarrement inventé. Et édulcoré, réinterprété, adapté à beaucoup de niveaux. La preuve, c'est que tout se divise, tout meurt dans le futur. Combien de mouvements sont morts? Oui, des mouvements qui ont connu le réveil sont morts. Aujourd'hui, sont inexistants. Où est la vie? Les mouvements qui ont eu un certain succès à un moment donné, qui se sont divisés, aujourd'hui sont divisés, divisés, divisés en plusieurs parties. Ce n'est pas le nombre d'adeptes qui donne le vrai. Pas du tout. C'est celui qui marche réellement dans la Teshuva. La pierre de fondation, c'est le Messie. La base du Malchut, c'est la Teshuva. Pour entrer dans le royaume de Dieu, nul ne peut entrer dans le royaume d'en haut. Et c'est ce que Pharaon comprend. C'est que lui ne peut pas avoir un ascendant, une force, et c'est pour ça qu'il dit, « Dis à Moïse, allez Moïse, va, toi tu pries, puis ça va calmer tout le monde. » Parce que Yeshua est la pierre de fondation. C'est un vrai retour. Et tant que l'Ecclésia, dans son histoire, avec ses fondateurs, avec ses pères, avec ses théologies, avec ses enseignements, ne feront pas une vraie teshuva. Il faut bien comprendre, même au niveau de la doctrine, ils n'arriveront pas au Sinaï. C'est peut-être dur ce que je dis. Mais à un moment donné, on accepte malheureusement que trop souvent le mensonge des ténèbres et on s'en gargarise en quelque sorte par les traditions, en les justifiant que ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Aujourd'hui, l'Éternel fait en sorte qu'il y ait quelque chose de réel qui sorte. Alors, la pierre de fondation, c'est le Messie hébreu. Parce qu'il n'y avait pas de Nouveau Testament. On venait juste à l'époque du temps du Mashiach, jusqu'à à peu près à l'époque de la destruction du Temple. Le Tanakh, Nevi'im, Ketuvim et Torah venaient d'être compilés. Yeshua ne connaît aucun autre écrit, mis à part ceux qui étaient la Torah chez BLP, la Torah orale, la Torah du bouche à bouche, la Torah transmise, la Torah commentée, pour être littéral. La Torah qui est plus tard, s'appellera Talmud. À l'époque, elle ne s'appelle pas Talmud. Elle s'appelle Torah orale, Torah chez BLP, le commentaire des sages, le commentaire des maîtres, les commentaires de Esdras, l'enseignement même de Néhémie et des autres, que la plupart, malheureusement, les personnalités de l'Église ne connaissent même pas, ne savent même pas. Et le Messie hébreu, la base du message de son royaume qui est la Teshuva, retenez bien, pas la prospérité, pas ce message-là, pas tu vas t'enrichir et Dieu va te bénir, donne ton fric et Dieu va te bénir 10 fois plus. Eh ben, non, c'est pas vrai. Il nous faut revenir aux paroles de vie du royaume, la Torah. Mais plus que la Torah intellectuelle, plus que la Torah étudiée intellectuellement, la Torah de la pratique, la Torah qui met sa maison, sa famille, sa vie dans la pratique du royaume de Dieu. Et cela passe par les fêtes de l'Éternel. Cela ne passe pas par le mélange du Shabbat transformé en dimanche. Désolé si je vous choque. Et si ça vous heurte, mais tant mieux. Parce que ce n'est pas le dimanche que Dieu a fixé pour sanctifier son nom. Voilà, un point ci. Et je ne vais pas m'énerver avec ça, puis si vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème. Parce que si je parle là-dessus, après je ne vais plus arriver. Pourquoi ? Parce que c'est lors de la dernière fête de Sukkot que le règne du Mashiach va s'établir. Et oui, et si on n'est pas dans le calendrier, dans la chronologie du plan de Dieu, on est à côté. Et on entre, et là je pense que vous allez comprendre mon langage, on entre dans ce que l'on appelle l'ecclésia apostate. Elle va rentrer dans son temps de l'apostasie, de son reniement, de ce qui renie sa force, de ce qui renie la base même de ce qu'elle avait reçu. C'est ça l'apostasie. C'est de rejeté pour être plongé dans les ténèbres. Et pour aller plus loin, les fêtes de l'Éternel, c'est le lieu futur de son règne. Seul Sukkot nous renseigne sur ce que sera le temps messianique, le temps du Messie, le temps du millénium. Et il est vrai que cela est prévu dans ce temps du désert, et pas quand ils ont été sur la terre d'Israël uniquement. Alors les signes qui vont frapper l'Égypte pharaon vont être d'abord cette famine qui détruit la nourriture intérieure, où l'homme se nourrit de télévision, se nourrit de prédications, de CD, de vidéos, de mélange de celui-ci à celui-là, et il passe par un autre encore, et après il dit « je comprends rien ». Mais je dis, mais c'est normal que tu ne comprennes rien, parce que tu n'as jamais rien compris, parce que tu ne veux jamais comprendre. Parce qu'à un moment donné, il y a un itinéraire. et il faut trouver sa voie. Et l'aveuglement spirituel vient ensuite, on devient aveugle. C'est-à-dire qu'on ne perçoit plus ce qui est lumière, vrai ou pas. De même, chacun ici qui discute négocie la teshuva, ce qui veut dire que, quelque part, si on veut vraiment être dans le vrai message de la chen, qui veut dire la grâce, la miséricorde, la bonté, le vrai pardon de Dieu, ce n'est pas simplement d'opposer loi et grâce sans comprendre ce qu'on dit, sans utiliser un seul verset en disant, parce que lisez Jean 15, et vous allez voir qu'à un moment donné, la base même du salut, c'est la Torah, c'est la loi. Yeshua ne va pas les contre. Et au contraire, il va les accentuer. C'est comme une charrue qui passe. Et il y a quelque chose d'extraordinaire parce que là, quand on est dans le mochem, on est dans la compréhension de ce que veut dire être gracieux. Et pas simplement quelqu'un qui est pardonné pour faire pire après. Ou simplement utiliser un langage, un vocabulaire, patois de Canaan, que personne ne comprend d'ailleurs dans le monde, mais quelque chose qui a une réalité qui nous rétablit dans le royaume de Dieu. Et chen, ça veut dire grâce. Seule la grâce se manifeste quand il y a la conscience de la transgression. Point. Mais qui nous montre la transgression? Des versets bibliques? Pas uniquement. C'est dans nos vécus, dans notre conscience aussi. Nous sommes marqués par la désobéissance. Et on pourrait aller plus loin. Ce n'est pas la compréhension doctrinale qui a été longuement débattue dans la dogmatique, établie comme vérité absolue, unique, en dehors de ça, tout le reste est faux. Voilà comment vous avez été enseigné. Dès le berceau. Le reste est faux, seul, ça est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? Et nous devons bien comprendre l'orientation. La compréhension doctrinale ne donne pas la vie, ne donne pas la lumière, ne donne pas le salut. Elle nous aide à nous cadrer dans notre compréhension pour appliquer. C'est tout. Si on en reste à un niveau intellectuel mélangé, cela veut dire qu'on va retomber sur nos pattes de ce qu'on disait tout à l'heure. On est sorti de la révélation dans le souffle divin. C'est tout. On est devenu une lettre morte. On est une lettre uniquement où il n'y a pas de souffle, où il n'y a pas de vie. Et toutes ces religions, tous ces endroits où on ne fait qu'appliquer des trucs par la crainte, par la menace, par l'obligation, il y a des systèmes ecclésiaux aujourd'hui qui sont mais des prisons du cœur, des prisons intellectuelles, des prisons où on nous enferme dans la vérité, de la vérité, de la vérité, puis tout le monde est une menace. Et il n'y a que nous. Et puis tout le monde a peur de tout, de tout, de tout. Des démons, des problèmes, de ce qui va arriver, de ce qui ne se passe pas. De oulala, la fin du monde, c'est bien trop. Ils sont tous... Ils prient parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils ont la foi. Moi, je sais que 99% des gens qui prient parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils veulent éloigner l'ennemi. Ils sont capables de prier la nuit entière, mais ils ne sont pas capables de prier une heure pour changer leur vie. Vous voyez? Ça, c'est le décalage horaire. Le message qui libère, c'était le souffle divin qui s'est répandu. Et ce message qui chassait les démons, parce que c'était l'application de la teshuva. Il guérissait les malades. N'importe quel malade. Il n'a pas guéri tous les malades, mais il était capable de guérir n'importe quelle maladie. Ok? Et en même temps, ceux, et je le dis de manière très consciente, les obsédés des démons, vous ferez mieux d'être obsédés par la lumière. Ça ira beaucoup mieux. La clarté viendra enfin. Hein? Voilà. Les malades même étaient purifiés. Les lépreux étaient guéris, purifiés, pour être littéral, hein, dans l'hébreu, conforme. Et il y a eu le passage des 10 lépreux. Il y a eu 10 lépreux, hein, encore le chiffre 10, 10 lépreux, mais un seul, vous voyez, neuf ne comprennent rien, un revient. Et c'est exactement le reflet de la nature humaine. Donc tout ça, c'était avant Pessah. Seul Yeshua est la véritable lumière. Il est la vraie source de la lumière. Il n'est pas une émanation de la lumière. Il est la lumière. Et il faut bien comprendre que ça pourrait être même à la limite très, très, très subtil. Parce que nous arrivons à la dernière plaie qui est celle de la mort des premiers-nés. Et cette dimension nous révèle à quel point la vie et la mort sont dans un pouvoir. Et que quelque part, qui a la puissance, qui a l'autorité sur la vie et la mort? Aucun médecin, aucun hôpital, aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun prophète, aucune nation ne possède le pouvoir de la vie sur la mort. Ou de la mort par rapport à la vie. Personne n'est capable de pouvoir dire, toi tu vas vivre 100 ans de plus, et toi tu vas mourir 30 ans avant. Personne. Alors, je sais qu'on attribue beaucoup aujourd'hui, malheureusement, des pouvoirs trop importants. Mais ça, c'est la crainte, la peur, quand on n'a pas de certitude. Quand on n'a pas l'ancrage, la foi dans le royaume de Dieu, lorsqu'on n'est pas dans la Ruach HaKodesh, lorsqu'on est sorti de la condamnation, que la rédemption est en nous, que l'obéissance est en nous, le mal ne nous atteint pas. Ça veut dire en hébreu, littéral, c'est que la mort nous a quittés, la vie a fait chacun, la vie nous habite. Et ce qui veut dire tout simplement qu'on attribue trop d'importance, et je ne sais pas pourquoi vous le faites, parfois, d'accorder d'importance à ceux qui pratiquent le vaudou, à ceux qui pratiquent le macumba, à ceux qui pratiquent les sciences occultes, ésotériques. Tout ça, c'est l'Égypte et Pharaoh. Mais Dieu a toujours montré la supériorité. Et pourquoi on spécule là-dessus? Pourquoi on est dans le pouvoir ésotérique, occulte, la puissance de la mort? Parce que c'est ça. Et on se met sous l'autorité de la puissance de la mort. Et vous avez des gens, ils sont toujours 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, ils ont encore besoin de chasser quelque chose. Bon sang, on a autre chose à faire. Et vous avez des gens, quand vous parlez avec eux, ils ne savent même pas parler, sans vous parler d'un langage patois, de canon spirituel. Et j'ai été attaqué, et j'ai tourné la tête, et puis il y avait l'autre qui m'a regardé de la fenêtre en face, et puis il m'a pris broie, je me suis dit... Après, l'autre, il a peur de la sorcellerie, les aiguilles. Alors, je dis ça parce que, si vous y croyez, si vous vous mettez sous cette autorité de peur, écoutez bien, si vous vous mettez sous l'autorité de la crainte de l'esprit d'Égypte, de Pharaon, vous êtes dominé par cette mort-là. Et toute votre vie sera dominée par la peur et la crainte et ne réussira jamais. Mettez-vous, au contraire, sous le pouvoir de la libération du Mashiach, sous le pouvoir de l'autorité et de la lumière. Et vous allez voir comment les ténèbres n'absorbent pas la lumière, mais elles chassent les ténèbres. Et ça, c'est le message. Ce n'est pas une doctrine, c'est la réalité du royaume, du Malchut. Aucun démon n'habite le ciel pour votre gouverne. Aucun n'habite là-haut. Aucun ne peut même entrer là-haut. Dieu n'est pas en train de prier chaque jour pour être libéré de Satan, qui voudrait rentrer. Hein? Faut arrêter. La réalité du royaume de Dieu, c'est qu'il a vaincu le monde des ténèbres. C'est ça, Pessah, non? Un passage étrange est celui de l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et le verset 14, qui dit en hébreu, « Ze leuma, ze asa Elohim ». Alors, ce passage nous amène à quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il Il est étrange, c'est vrai. Parce qu'il montre une contradiction qui va vraiment nous orienter. Il est avec le monde de la création, ici, profondément en relation. On a le sens de la compréhension et de toute explication. c'est qu'un seul élément de la création se distingue des autres, car il est la source, et la seule source qui distingue tous les autres éléments de la création, c'est la lumière. La lumière, le premier, Dieu dit, qui marque justement l'unicité, l'unité de Dieu, l'unique, le seul et unique créateur. Je sais qu'il y a d'autres choses que certains diront. Il est la source. Et la source qui a été reconnue, c'est Mashiach, Yeshua, qui est la lumière, cette lumière qui est celle de la vie et de l'existence. D'où l'importance d'avoir cela. Tous les autres éléments de la création marquent que dans le monde du bien que Dieu a créé, parce que chaque élément dans Mamarot, Dieu a dit « Tov », c'est bon, c'est bien, concret, correct. Le mot « Tov », bon, mais nous voyons que dans chaque élément de la création, il a créé le contraire. Ce qui veut dire qu'il y aura toujours cette contradiction. Il va dire « c'est bon », mais à partir du moment où on est soumis au Créateur, à l'autorité du roi, et que le reste ne va pas nous ramener au chaos. Et c'est pourquoi il y a la lumière. Dieu a créé la lumière, mais il crée les ténèbres. Il crée le jour, mais il amène la nuit. Il amène à l'existence le jour et la nuit dans des moments différents. Et chaque être humain bascule entre le jour et la nuit. À un moment donné, il est dans le jour, à d'autres moments, il est dans la nuit. Et beaucoup de choses pourraient être dites là. Mais il crée en parallèle le monde du mal. C'est-à-dire que c'est très compliqué de comprendre comment l'Éternel a pu permettre, mais ceci en fonction de ce que choisirait un jour l'homme. Il a prévu les deux niveaux. Il a prévu ce qui serait en relation avec l'arbre de la vie et ce qui serait en relation avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que nous devons comprendre dans le niveau de la création. Dieu nous amène justement à faire correspondre l'un et l'autre. Il est la source de tout. Et ce que nous devons comprendre dans l'enseignement de Paul quand il parle de l'homme nouveau, et ce sera ma conclusion, c'est que Paul, comme d'autres, même par rapport à l'Ecclésia, il va parler de quelque chose qui n'est pas relié à la dimension de la création du temporel, mais qui est sorti de ce niveau et qui est rentré dans la loi de l'esprit de vie, que même les païens, qui étaient des païens, des idolâtres, qui ont accepté de rentrer dans la compréhension de la lumière en Yeshua, de la rédemption, de ce plan de rédemption. Comment Paul les appelle, ces gens-là? Vous devriez le savoir mieux que moi, d'ailleurs. Une nouvelle création. Mais il appelle l'homme nouveau. Et il dit bien dans Éphésiens 2 qu'à un moment donné, des deux, il en fait un. Il ne les contredit pas. Ceux qui contredisent Israël et l'Église, ceux qui veulent amener une opposition, une différenciation, une distinction qui n'est que doctrinale, mais qui n'est pas liée à la vie du royaume, n'amèneront jamais l'Echad, ne vivront jamais l'Echad. Mais lorsqu'on entre dans la compréhension de ce que dit Paul, nous sommes une nouvelle création, un homme nouveau, dans une nature nouvelle. Et comme il a été dit tout à l'heure par Pessah, avec la Matzah, le fait de vivre la rédemption de Pessah fait que nous sortons de l'asservissement. Plus, nous ne sommes plus assujettis à la mort. Je ne sais pas si vous l'avez compris, ça. Nous ne sommes plus assujettis à quelque forme de mort. Mais pourtant, la mort vit en vous. Et beaucoup la vivent dans la déprime, les médicaments, les substituts médicamenteux et de toutes sortes pour essayer de vivre. D'autres même vont aller à outrance dans la spiritualisation des choses, le mysticisme, la désincarnation de soi pour rentrer dans une autre identité. Humainement, ils sont rien, mais dès qu'ils sont dans le Seigneur, ils ont des révélations, ils ont des machins, ils ont des trucs, et il se passe plein de trucs. Et puis leur vie, elle est complètement cassée. Elle n'a pas de cohérence. Elle n'a pas de stabilité. Et l'Éternel, justement, nous montre que ce qui reconstruit l'homme, ce sont les lois du royaume, les lois d'en haut. C'est la fête de Shavuot. Où es-tu dans ta personne? Où es-tu dans ta personne? Tu peux être lumière et ténèbres, tu es un recto verso spirituel. Tu révèles la lumière que tu veux révéler, mais qui n'est pas la lumière d'en haut. Tu veux, au travers de tes ténèbres, te dissimuler, cacher ta face, ton mauvais fond, tes mauvaises intentions, ta méchanceté, ta haine. Et tu essayes de la couvrir par une spiritualité évangélique. Dieu nous aime.
Dieu est ami.
Alléluia. Dieu te bénisse, mon frère. Oh, que l'Esprit soit sur toi. Et dis-lui, mais ça va pas, toi, tu es un peu malade, tu vas voir comment il va changer le langage. Tout de suite, il devient lumière. Tout de suite. En une seconde, tu lui dis, tu es un mystique malade, et il faut qu'on prie pour ta délivrance, parce que tu n'es pas très normal, toi. Tu vas voir d'un seul coup, tu es qui, toi? Qui es-tu pour oser me dire ça? Et d'un seul coup, c'est plus la même personne. Il y a un changement, une transformation. Aïe. Et je l'ai vécu, ça. Ouh là là. Mais regardez, l'Éternel ne nous demande pas d'avoir double face. Une adaptation dans les circonstances, mais un caractère de l'esprit. Une vie sanctifiée. Une vie qui marche dans la lumière. Une seule lumière et pas des lumières. Qu'y a-t-il en toi ? Est-ce que tu es sous le gouvernement de Pharaon de l'Égypte, dans la domination de ce tyran, de ce monde qui refuse et qui combat constamment Dieu dans sa vie, le plan de Dieu dans le futur, qui refuse de laisser libre, qui, au lieu de se réjouir de la délivrance de l'autre, se réjouit de l'emprisonnement de l'autre? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Il y a le domaine superficiel dans la Teshuvah, comme on l'a vu. Mais j'aimerais conclure avec ce passage de Paul qui dit que si nous voulons véritablement découvrir la vie, le véritable, non pas message de l'Évangile tel qu'on nous le dit, ou un message évangélique, ou un cri à l'Évangile, la Torah, la Bible, c'est tout. C'est tout. Le Messie, c'est pas un message. C'est le roi des rois qui vient. Ce n'est pas une doctrine. Et on peut aller parfois un peu trop loin dans l'ésotérisme ou dans les interprétations. C'est vrai que là, j'aurais pu mettre les 10 sphirotes. Oui. Eh oui, qui constituent l'ensemble des choses dans la dimension des attributs divins. Et on aurait pu aller très loin là-dessus. Mais ce qui doit nous rattacher avant toute chose, c'est que le Messie doit être formé en nous pour vivre en nous. Et il ne le peut que par la présence de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint ne pourra habiter qu'à partir du moment où il peut le faire. Et ce n'est pas des espèces d'imitations de parler en langue, des espèces de trucs qu'on invente, des mots qu'on fabule, qui vont changer la vraie condition de la nature de l'homme. Erreur, erreur, erreur. Par contre, il y a un vrai langage de l'esprit. Il y a un véritable langage d'en haut. Mais à partir du moment où les choses sont dans la lumière et sainte et claire, celui qui prie en langue et qui pêche et qui a de la méchanceté, de la haine dans le cœur, ne peut pas prier cette langue. Ne peut pas. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Dès que vous sortez, vous êtes capable de dire « J'ai prié dans la langue de l'Esprit » et tu es capable de maudire 10 minutes après. Tu peux me dire où est la cohérence pour moi? Je n'y crois pas à ça. Par contre, celui qui effectivement va avoir ce langage, mais que sa vie reflète cette lumière de bonté et émane, rayonne d'amour, rayonne de douceur, rayonne de bonté, de compassion et d'humilité. Alors ça, je crois. Ça, je crois. Mais celui qui n'a pas la cohérence et qui me dit qu'il prie 2 heures en langue, mais qu'il est aussi pourri que n'importe lequel pèlerin que je trouverai n'importe où, on ne me le fait pas gober. C'est peut-être dur. Ça vous déplaît. Je sais que ça vous déplaît, mais ça me plaît. Ça me plaît de déplaire, vous savez. Parce que, à un moment donné, on n'est pas en train de se gargariser dans le faux, dans le mensonge. On est dans quelque chose qui est, voilà, nous responsabilise réellement. Celui qui vit Dieu révèle Dieu. Et il n'est pas la nuit, il n'est pas les ténèbres. Et le vrai message du salut, c'est celui qui dit, Mashiach, tu es la lumière qui a été envoyée parmi les hommes. C'est par cette lumière que nous voyons la lumière. Et c'est à ta lumière que nous voulons marcher. Et que la lumière de la vie resplendisse. Alléluia. Et quand la lumière de la vie resplendit, alors la vie est présente. Et la mort s'éloigne. Elle nous quitte. L'ombre de la mort n'habite pas la sphère où Dieu habite. Si chaque fois tu es dans le Mishkan, la gloire, la gloire, la gloire, et la mort n'est pas.